les autres voix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Les podcasts de la paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute!
Bonjour à tous, merci d'être venus pour assister à cette conférence. Donc ici vous avez JP de La Brèche, c'est un journal indépendant stéphanois. On a Fabien qui est chargé de diffusion à L'Âge de Fer. Vous avez aussi Philémon donc, qui est rédacteur en chef du journal Mouais, qui est basé lui à Nice, je crois que je ne dis pas de bêtises. Hein.
C'est ça, nous sommes basés à Nice, c'est pas facile en ce moment, mais c'est le cas.
Et donc Tristan, je te présente quand même, Tristan Kemener, directeur opérationnel général du journal Fakir, qui est à Amiens. Il y avait l'idée de parler de nos différents modèles économiques, et puis de refaire un tour après sur la diffusion. Parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes moyens de diffusion.
Après aussi, il est important de préciser pourquoi on fait du papier, sachant qu'il est aussi important de préciser qu'on fait tous partie du syndicat de la presse Pas Pareil, qui est un syndicat qui regroupe bientôt une cinquantaine de médias membres, dont beaucoup font du papier. C'est un peu ce qui nous caractérise, c'est voilà, l'amour pour le papier, et on va s'en expliquer pourquoi on décide de s'obstiner dans un modèle qui est pas le plus simple. Hein. Faire du papier, c'est beaucoup plus de complications qu'avoir un simple site web. Beaucoup plus de frais, beaucoup plus d'intermédiaires, etc. Enfin, c'est complexe. Donc voilà, on va expliquer pourquoi nous commettons la folie de chaque mois ou tous les deux mois balancer tout ce papier autour de nous.
Et alors justement, Philémon, peut-être que du coup, on peut commencer avec toi.
S'il te plaît.
Matchko, pardon. Je me rappelais plus qu'il fallait t'appeler avec ton nom de scène ce soir. Est-ce que Matchko, tu pourrais nous parler du coup du modèle économique du Mouais ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire un journal papier à Nice, qui en plus, voilà, j'imagine que la situation elle est pas forcément évidente. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter tout ça ?
Après, à Nice ou ailleurs, c'est vrai qu'à Nice, il n'y avait pas de médias indépendants. Mais après, qu'on soit à Nice ou ailleurs, au final, les municipalités ne donnent pas d'argent aux médias indépendants. Et c'est heureux. Ça ne change pas grand-chose. Mais nous, on est nés en fait à la confluence de différentes luttes sociales, Gilets jaunes, Nuit debout, etc. Donc, avec l'idée de ce qu'on appelle le FLTP, qui est une adaptation du Do It Yourself. Donc, FLTP, c'est fais-le avec tes potes. Donc, on a constaté qu'il n'y avait pas de journal indépendant dans la région de Nice et dans le 06 de manière générale, dans le département des Alpes-Maritimes. Et donc, on a décidé de créer ça à partir d'une base qui était celle du fanzine à punk. Hein, c'est de là d'où on vient. Et peu à peu, on s'est professionnalisé. On a commencé aussi, sachant qu'on a juste un journaliste professionnel, disons, qui a fait l'étude de journalisme dans la rédaction. Les autres, on est formés sur le tas, quoi. Et peu à peu, l'aventure qui a commencé en 2019 a fini par donner lieu, notamment grâce aux rencontres qui ont été initiées dans le syndicat La Presse Pas Pareil, à nous motiver à passer en diffusion nationale. Parce que pour nous, il y a vraiment une question idéologique importante à être diffusée le plus massivement possible, sachant que nous, on a un positionnement qui est assez une ligne éditoriale qui est assez particulière, qui est celle de l'anarchisme, donc qui est assez peu représentée dans la presse en général. Donc pour nous, c'était important de faire ça, mais c'est sur un modèle économique qui est extrêmement précaire, quoi. Donc, on est principalement bénévole, à part la maquettiste. On est au minima sociaux, hein, voilà. Enfin, ça nous prend beaucoup de temps, mais on est au minima sociaux. Moi, je fais des piges à côté, je fais des petits boulots aussi pour financer ça. Mais on n'arrive pas à pérenniser du coup des rentrées d'argent suffisantes via les abonnements, via les ventes pour assurer des postes. Et il faut savoir voilà, que le papier, c'était quand même des coûts importants. Donc c'est difficile à mettre en place et à tenir. Et ça se tient à bout de bras. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'épuisement dans beaucoup de rédactions qui font du papier, avec des titres qui disparaissent, mais aussi d'autres qui réapparaissent. Et je me suis perdu dans ma phrase.
Non, mais je pense qu'on a plutôt compris. Ouais. Et puis aussi, vous êtes passé en diffusion nationale, c'est-à-dire en kiosque national depuis deux numéros.
Depuis deux numéros, ouais, en diffusion nationale depuis deux numéros. Et pareil, c'est, bon, c'est un challenge, hein, passer d'une revue imprimée à 600 exemplaires, 1000 exemplaires maximum, à 10 000, 12 000, 15 000 exemplaires diffusés dans tous les kiosques du pays. Donc pour le moment, on a eu, fun fact, 13-12 points de vente qui ont très bien vendu. C'est un hasard total, mais voilà. Mais sinon, le problème, c'est, on en reparlera aussi, mais c'est que donc on est notamment en vente dans les relais Bolloré. Vous savez que voilà, tous les points relais ont été achetés par Bolloré, avec quand même du coup un gros travail éditorial vers l'extrême droite dans la mise en rayon, quoi. Et on ne peut pas vérifier, en fait, il y a 6 000 points de diffusion, on ne peut pas vérifier un par un à quel point on est mis en avant dans les kiosques, mais ça arrive très souvent qu'on soit mis de côté, derrière, voire même pas du tout mis en rayon. Et ça, c'est un gros problème en termes de diffusion, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de kiosquiers qui ne jouent pas le jeu, ou alors qui jouent un jeu opposé pour des raisons idéologiques, ou alors juste parce qu'ils ont eu des pressions, enfin... Toi, tu as assez travaillé sur le sujet, donc je pense que tu pourras en parler plus précisément, toi aussi, avec ton travail de chargé de diff qui traverse le pays pour aller voir comment c'est diffusé. Mais c'est un peu le problème, c'est que si on avait la même possibilité que des journaux de merde, hein, comme Franc-Tireur, etc., d'être mis en avant, on pourrait avoir des ventes beaucoup plus élevées, mais là, pour le moment, c'est vrai que c'est difficile d'être vraiment mis en lumière dans les kiosques. Et donc, c'est une aventure un peu complexe de passer en diffusion nationale. Et d'ailleurs, on n'est pas si nombreux que ça, hein, à être dans ce cas, dans le SPPP. On est La Brèche, L'Âge de Fer, Fakir, on est tous là, en fait. Voilà.
Non, on n'est pas très nombreux, effectivement. Tu voulais y aller, JP, ou...
J'allais rebondir sur un truc, mais ça peut attendre. Hein. Ouais. Ce qu'il faut noter, c'est que en France, on a à la fois une chance et en même temps, enfin voilà, ça garantit pas tout, mais on peut avoir une reconnaissance en tant qu'organe de presse qui s'appelle IPG, intérêt politique général. Donc on a certaines contraintes à respecter pour avoir cette reconnaissance-là. Mais une fois qu'on a cette reconnaissance, on a accès à certaines choses et notamment le fait que les kiosques n'ont pas le droit de refuser de nous vendre. Donc quand on diffuse dans les kiosques à l'échelle nationale, c'est pas nous qui allons dire directement « Tiens, je vais mettre 2 journaux dans ce point de vente, 5 journaux dans ce point de vente ». Entre nous et le diffuseur, il y a ce qu'on appelle un régleur. C'est un prestataire qui va analyser les remontées de vente et qui va essayer de faire la diffusion la plus juste possible au niveau de tous les points de vente pour optimiser, parce qu'on ne peut pas distribuer dans tous les points de vente de manière exhaustive. Et en fait, donc, les kiosques, on va les solliciter en leur disant on va vous envoyer 5 exemplaires. Et en ayant la reconnaissance IPG, ils n'ont pas le droit de refuser de nous vendre. Donc ils n'ont pas le choix à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même une garantie qui est assez importante, qui permet de garantir une certaine pluralité de la presse et qui va permettre aussi à un lectorat qui n'est pas forcément à l'aise avec le numérique d'avoir plusieurs titres en papier relativement représentatifs. Le problème, c'est que, par rapport à ce que disait Matchko, ils n'ont pas le droit de refuser de nous vendre, mais ils peuvent ne pas nous mettre en rayon. Donc, si on n'est pas affiché en rayon, il faut qu'une personne aille demander explicitement au comptoir « Bonjour, je voudrais acheter le mouet, je ne l'ai pas trouvé dans le rayonnage. » Je sais qu'à titre personnel, ça m'est arrivé une fois à la gare d'Avignon, où je suis allé au relais, je n'ai pas trouvé le journal dans les rayonnages, je suis allé demander, et là, la personne au comptoir s'est baissée, la sortie d'un carton, « Tenez, il est là !» Et je lui dis, oui, mais vous comprenez bien que déjà, on a une notoriété qui est relativement faible. Donc si on n'est pas en plus affiché dans les rayons, forcément, c'est compliqué d'aller toucher des lecteurs et des lectrices qui ne nous connaissent pas. Donc il y a cet avantage de l'IPG, mais qui ne suffit pas à lui seul à garantir qu'on ait cette possibilité de diffuser, cette possibilité de toucher un lectorat qui ne nous connaît pas forcément. Et je trouve que l'exemple de Franc-Tireur, il est très juste. Enfin, voilà, je veux dire, Franc-Tireur... Je ne me prononcerai pas sur la qualité éditoriale du journal, je ne me permettrai pas. Mais avec une exposition médiatique comme celle-ci, avec des personnalités médiatiques, je veux dire, leur pub, elle est déjà toute faite. Et nous, on ne joue pas à armes égales. Et ce serait bien que politiquement, il y ait des choses qui soient mises en place pour garantir qu'au moins, on ait une représentativité égale dans les points de vente qui nous permettrait d'avoir un peu plus accès à ce lectorat-là. Voilà un peu pour ce que je voulais rajouter.
Ouais, c'est complètement ça. Et même, je complémenterais juste un dernier point, c'est qu'en plus, il y a eu une loi de modernisation de la diffusion de la presse passée en 2023 et qui, en fait, est complètement encore à notre désavantage. C'est-à-dire que c'est aux avantages des gros groupes, des grosses machines de guerre de la presse, mais pour des petits médias indépendants, comme l'a dit JP, c'est-à-dire qu'avec l'IPG, ils sont obligés de nous mettre en rayon, mais, enfin, de recevoir nos journaux, mais ils ne les mettent pas en rayon. Et en fait, avec cette nouvelle loi, si jamais au bout de deux numéros, on n'a pas vendu de numéros dans leur boutique, ils ont le droit de nous mettre à zéro pendant 6 mois et donc de ne plus nous recevoir. Et je sais qu'à titre personnel, pour Fakir, puisque bon, on voulait parler de nos modèles un peu économiques, pour Fakir, ça a été un peu une catastrophe. C'est-à-dire que on a perdu énormément de ventes en kiosque entre 2021 et aujourd'hui. Depuis que les relais sont passés sous pavillon Lagardère, Bolloré, etc. Enfin, c'est Bolloré qui aujourd'hui décide de ce qui va être. Alors, il ne va pas aller dans chaque kiosque pour décider, mais voilà, on sait très bien comment ça se passe. Il y a des instructions qui sont données et on se retrouve avec la situation actuelle. Et donc oui, c'est facilement. On est passé. J'ai pas envie de dire de chiffres, mais en tout cas, on a perdu quelques milliers de ventes en kiosque en très peu de temps, quoi. On voit vraiment la différence. Et sinon, pour Fakir, donc, comme on l'a dit au départ, on est basé à Amiens. On a 9 salariés en CDI et on a une quinzaine de pigistes pour les dessins. En gros, on ne vit que grâce aux abonnements des lecteurs. On a les ventes en kiosque également. Et puis quelques dons, mais les dons, ça reste quand même assez minime par rapport aux abonnements. Donc c'est vraiment, d'où l'importance de la diffusion et de la vente en kiosque. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de crucial. Et aujourd'hui, c'est vrai que la loi n'est pas faite pour arranger les petits. On est dans un moment, on a une concentration médiatique. On va pas revenir sur, c'est pas le sujet, mais c'est un vrai problème, quoi. Tu veux parler peut-être un peu de l'âge de fer, et puis après on enchaîne.
Allez, carrément. L'âge de fer, alors, il a 20 ans le journal. Nous, on est 7 aujourd'hui, temps plein, en CDI et en SCOP. Nous, on est en société coopérative. Donc, c'est un peu la différence. On pourra parler de ça, mais il y a quand même pas mal de journaux qui sont en association. Nous, on est en société coopérative. Et l'âge de fer, quand il est né, donc en 2005, l'idée du fondateur, c'était d'envoyer des paquets de 25 exemplaires, d'ailleurs, à l'époque, et que les gens s'engagent à acheter des paquets et les revendre, en fait. Et du coup, c'était en direct. Il n'y avait pas de kiosque. Du coup, l'idée, c'était de ne pas aller en kiosque pour éviter de jeter 80% de ce qui est mis en rayon. Du coup, ça, le modèle a fonctionné. Après, il y a eu des abonnements qui ont commencé à se mettre en place. Et donc, aujourd'hui, on a une partie abonnement particulier et on a toujours ces paquets. Donc, ça part soit chez des particuliers ou des biocopes. On est pas mal vendu dans les biocopes, des magasins bio, des associations. Il y a des AMAP aussi qui nous achètent en paquet. Puis, toutes les semaines, ils mettent une fois par mois le journal dans le panier de l'AMAP. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a quand même, on teste le kiosque pour essayer de diversifier les canaux de distribution. Et donc, on est en kiosque sur Marseille-Provence Métropole. Enfin, ça s'appelle MPM. C'est Aix-en-Provence, Marseille et toutes les villes autour. Toulon. Et on est sur Lyon aussi, parce que ce sont des coopératives, des SIC pour le coup, des coopératives qui diffusent la presse. Mais c'est vraiment... c'est un peu une catastrophe. Alors, on ne perd pas d'argent. Quand même, ils prennent une commission, mais on arrive à pas trop perdre d'argent. Mais les ventes, c'est vraiment très compliqué. Et sur le modèle économique, ben voilà, un petit peu pareil que les copains, les abonnements, donc la diffusion. On a une subvention du ministère de la Culture avec nos sous, les vôtres et les nôtres aussi. Ça, c'est au titre de publication à faible ressource publicitaire, comme on a zéro pub. Voilà, on est à 24 000, 25 000 euros par an. C'est un virement, en fait. Et par contre, les dons, nous, ça monte. En fait, on a 6 000 abonnés papier, mais vous voyez, genre Facebook, on a 25 000 personnes qui nous suivent, c'est génial. Newsletter, on a 13 000 abonnés à nos newsletters. Donc en fait, au bout d'un moment, ce qu'on a commencé à faire, c'est des newsletters aussi thématiques qui renvoient sur notre site. Et en bas, il y a écrit abonnez-vous ou alors donnez-nous de l'argent. Enfin, à un moment donné, si vous lisez nos trucs gratuitement. Et c'est en train de monter, en fait, les dons. Donc c'est je trouve toujours un peu bizarre d'avoir beaucoup de dons, parce que nous ce qu'on voudrait c'est vendre le journal, mais bon, il y a des gens voilà, qui lisent par d'autres canaux, et ça marche très bien. Et pour conclure, mais sur les aides à la presse, je vous donne juste l'info, mais en gros les aides à la presse, on estime que c'est 1 milliard d'euros par an, tout compris. C'est-à-dire que nous là, comme disait JP, on est IPG donc, et on a un numéro de commission paritaire. Je la fais vite, mais j'aime bien dire ça. Et le numéro de commission paritaire fait qu'on a les tarifs postaux bien plus avantageux. Heureusement, on ne paye pas le prix du timbre. Mais ça ne fait qu'augmenter. Mais voilà, on a prix avantageux. Et c'est l'État qui paye en fait la différence à la Poste. Donc ça fait une subvention indirecte. Et on a un taux de TVA à 2,10%. Et ça, c'est quand même super, parce qu'en fait, on vend tout à 2,10, mais on achète tout à 20 ou à 10, donc on récupère beaucoup. Mais voilà, en gros, dans l'ensemble. Et alors, je ne vous dis pas ce que touche le monde ou Libération, ou Le Point, et tout ça. Mais bon, en tout, ça fait 1 milliard d'euros. Quand
ou même, les Échos.
Ou les Échos. Mais c'est quand même assez énorme. Voilà.
Qui sont d'ailleurs les premiers à taper sur...
Ces parasites qui profitent de l'argent public.
Oui, et puis de la...
Bref.
Oui, et donc, pour la brèche, du coup, comment ça se passe?
Au niveau du modèle économique?
Ouais.
Bah, c'est sensiblement la même chose. Je vais juste refaire un petit peu d'historique, mais très rapide pour resituer. Nous, en fait, avant de faire La Brèche, on avait un magazine qui s'appelait Barré, qui a été publié entre 2014 et 2017, et qui était un MOOC, donc vous savez, ces objets hybrides entre le magazine et le livre, et qui était distribué en librairie. Et en fait, on s'est rendu compte, tout le monde était bénévole, ou alors vraiment défrayé à titre symbolique, et c'était hyper compliqué à distribuer, ça nous demandait beaucoup d'énergie. On s'est un peu épuisé au bout de 7 numéros, et en discutant avec un ancien administrateur du journal La Décroissance, il nous a dit, mais vous êtes débile, avec le même budget, vous pourriez en distribuer 20 000 en kiosque. Et là, on en distribuait 1 000 en librairie et on n'arrivait pas à tous les écouler. Et l'idée a fait son chemin et on s'est dit, ouais, le kiosque, c'est quand même, ça a cet avantage de nous permettre de distribuer très massivement en n'ayant pas des frais non plus monumentaux. Donc on a petit à petit repensé la ligne éditoriale, repensé l'objet. Mais comme on a toujours été très attaché au papier, le kiosque s'est imposé comme un moyen assez naturel. Et c'est aussi un moyen qui permet d'avoir de la visibilité, de faire la promotion du journal sans passer par les réseaux sociaux. Parce que mine de rien, quand on part de zéro au niveau notoriété, comment on fait pour se faire connaître? Et voilà, nous, on est nuls sur les réseaux sociaux, ça ne nous intéresse pas. C'est pas raccord avec nos valeurs, avec nos formats. Et du coup, le kiosque, ça a cet avantage-là. Et on a rencontré notre lectorat un peu de cette manière-là. Et on a toujours des gens qui s'abonnent en nous disant « Je vous ai acheté au Super U de Niort, je vous ai découvert pendant mes vacances. » Et donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, ces points de vente sont de moins en moins fréquentés. Mais c'est les deux piliers de notre modèle économique, c'est les abonnements, dont certains viennent justement des kiosques, et les ventes en kiosque. Et ensuite, par-dessus, il y a effectivement les aides à la presse dont Fabien a parlé, qui sont non négligeables. Et après, on a quelques petits éléments qui viennent compléter le budget, qui sont quelques dons, un peu d'éducation aux médias, et puis de la vente de numéros, enfin, vente au numéro, soit par des commandes directes, soit sur de l'événementiel, comme lors d'événements comme celui-là. Donc voilà, notre modèle économique, il est construit principalement autour de ça. Mais voilà, comme on le dit depuis tout à l'heure, la question de la diffusion et par ricochet de la notoriété, elle est essentielle. Et je pense qu'il y a un enjeu politique. Alors, à la fois dans la refonte des aides à la presse, qui serait essentielle parce que, en tant qu'organe de presse, la somme qu'on va toucher, elle est corrélée à la diffusion qu'on a. Donc, en gros, plus on est gros, plus on diffuse, plus on touche de l'argent. Donc quand on prétend défendre le pluralisme, c'est peut-être un peu étrange cette manière-là. Et il n'y a pas du tout aussi de lien avec le modèle économique de la structure derrière. C'est-à-dire si vous avez un actionnaire derrière, vous allez toucher autant que si vous êtes une SCOP ou une association. Donc on touche des aides à la presse, ce qui est quand même important et non négligeable. Mais voilà, il y a quand même à redire sur la manière dont ces aides sont distribuées. Et par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'IPG, le fait qu'on ait certaines garanties au niveau des kiosques, et pour faire écho à ce que disait Tristan aussi, on voit bien que c'est des choses qui peuvent être détricotées très facilement aussi, en fonction des personnalités politiques qui arrivent au pouvoir dans les prochaines années. Donc il y a aussi un travail, je pense, de plaidoyer à mener à ce niveau-là. C'est aussi ce qu'on essaye de faire avec le syndicat de la presse, pas pareil, pour essayer d'avoir un peu voix au chapitre en pesant un peu plus lourd. Parce que effectivement, maintenant, il y a beaucoup de médias qui n'ont pas forcément d'existence en papier, et on a une spécificité qu'on essaye de défendre. Donc, on essaye de se regrouper pour peser plus lourd et pour exister. Et je pense que ça se joue aussi au niveau citoyen, en allant justement dans ces points de vente, en demandant aux kiosquiers, aux kiosquières, est-ce que vous avez Fakir, est-ce que vous avez le Mouet? Et pourquoi est-ce que vous ne les mettez pas plus en avant par rapport à d'autres titres? Je pense qu'il y a aussi un travail de sensibilisation à faire pour ces personnes qui tiennent des points de vente et voilà, pour qui il y a une logique économique, mais il peut aussi y avoir des valeurs qui sont défendues et ce n'est pas forcément fait de manière consciente. Donc voilà, je pense que ça se joue aussi à ce niveau-là.
Et je voulais signaler aussi que toi, du coup, c'est en discutant avec quelqu'un de la décroissance que t'es passé, vous avez décidé de passer en kiosque. Et moi, c'est en discutant avec toi que j'ai décidé de convaincre ma rédaction de passer en diffusion nationale. Donc, comme quoi, les idées plus ou moins brillantes se transmettent comme ça. Et pour vrai, moi, je voulais insister aussi sur un point qui, quand même, à prendre en compte, c'est que, et qui est au début, c'est pour ça que c'est assez contre-intuitif de passer en national. C'est qu'une très grande partie, on va produire beaucoup, mais une très grande partie, enfin, on va produire beaucoup, mais qu'on va payer moins cher, parce qu'on passe en impression rotative. Le numérique, il n'y a pas d'économie d'échelle. Plus on imprime, plus c'est cher. En rotative, donc en grosse machine d'impression, celle qu'on voit dans les films, etc., c'est plus on imprime, moins c'est cher. Donc il y a un espèce de côté, encore une fois, oui, contre-intuitif, qui consiste à imprimer beaucoup plus pour être plus diffusé, mais pour avoir, en gros, si on fait, je pense ne pas être juste, je peux dire que 30% de vente, c'est très 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 bien. Généralement, c'est entre 10 et 30% de diffusion, donc le reste est mis au pilon. Bon, Inch'Allah, il est recyclé, on espère, mais voilà, il y a quand même un modèle économique qui est assez particulier, parce qu'il consiste à produire beaucoup pour diffuser plus, mais à partir d'une économie qui est assez particulière, et qui, effectivement, peut être un peu étrange au premier abord, et c'est pour ça que c'est un pas assez compliqué à passer, parce qu'on se dit, comment se fait-il que je puisse gagner plus d'argent en gaspillant plus? Et voilà, il y a ce modèle économique qui est basé là-dessus. Donc effectivement, nous là, on n'a pas encore les aides consécutives au fait qu'on soit, parce qu'on a fait que du numéro, qu'on est passé à plus diffusion nationale, donc on n'a pas encore les aides qui vont avec, mais on les aura. Et c'est vrai que c'est particulier, quoi. Donc, notamment d'un point de vue, bah, je pense que toi, tu pourras en parler plus, mais d'un point de vue, ou toi, je me sens qu'on en parlait hier, d'un point de vue écologie, ça peut paraître assez particulier. Mais il faut savoir aussi que le numérique coûte aussi beaucoup en termes d'énergie, etc. Donc c'est pas forcément, même si ça a l'air beaucoup plus polluant, etc., c'est pas forcément le cas. Et il y a aussi quand même un aspect sur lequel j'insiste beaucoup, sur le fait pourquoi on fait du papier, c'est que le papier a une espérance de vie qui est incroyablement beaucoup plus élevée que celle de tous les formats numériques. Enfin, les études ont montré que l'espérance de vie d'un truc numérique, c'est 5 à 10 ans, c'est pas beaucoup, alors que le papier, on lit encore des choses qui ont été écrites il y a des milliers d'années. Quand on fait partie d'un journal, on envoie tout chaque numéro est envoyé à la BNF, tout est archivé. Il y a aussi des personnes qui font ça sur leur temps libre ou de façon, voilà, des personnes qui font des collections personnelles de journaux. Voilà, on sait, ce petit journal sera encore lu potentiellement par les anarchistes du futur dans 320 ans, s'il y a encore une civilisation, alors que tout ce qui est en ligne, malheureusement, ça risque de disparaître à plus ou moins long terme. Donc c'est pour ça que c'est important de faire du papier, à mes yeux et à nos yeux, pour ça qu'on s'obstine à produire ces objets étranges.
Oui, Fabien et Tristan, moi j'aimerais bien vous entendre justement sur l'importance pour vos médias respectifs de, de maintenir un lien avec le papier.
Bah, pour moi, pour nous, hein, à Fakir, l'important, c'est que c'est un... Alors, tout ce que vient de dire Machko, je souscris complètement. Et, mais puis surtout, il y a un objet. Je veux dire, c'est pas la même chose, c'est pas le même rapport à l'information, c'est pas le même rapport à ce qu'on écrit, à ce qu'on lit, etc. Il se passe quelque chose, et c'est pour ça vraiment qu'on est très attaché au papier et que jamais, en tout cas, tant que je serai à Fakir, jamais on abandonnera l'impression et la diffusion papier. Maintenant, il faut quand même le dire, parce qu'on n'arrête pas de dire la presse papier survit, etc. Mais concrètement, ce qu'on dit et ce qui est vrai, c'est que les ventes en kiosque baissent. On repose de plus en plus sur le don. On a vraiment besoin du don pour être à peu près à l'équilibre. Et nous, ça va faire un an. Alors, mai dernier, on est passé complètement en ligne aussi. C'est-à-dire que tout ce qu'on écrit dans le papier, on le met en ligne. Et en plus, on écrit des articles tous les jours. Donc voilà, on a essayé de se diversifier pour avoir d'autres rentrées d'argent. Et en fait, ce dont on se rend compte un an après, c'est que le site web fonctionne super bien. Il y a énormément de gens, on a rencontré un nouveau public, on a rajeuni les lecteurs, etc. Et c'est aussi important. Alors je ne suis pas en train de faire l'éloge de la presse en ligne, mais en fait, voilà, ça nous permet d'avoir un public plus large. Des personnes qui vont pas forcément acheter le papier, mais moi j'y crois énormément au papier. Je pense que c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme la mode des vinyles, ça revient en ce moment là, tout le monde se remet à acheter des vinyles. Aujourd'hui la presse papier est un peu moins la cote, mais je suis sûr que d'ici quelques temps ça va revenir, c'est un effet de mode, donc j'y crois, ouais.
On en a parlé dans notre dernier édito, on fait le lien avec le vinyle justement, ouais.
Ouais, j'entends cet argument pas mal et j'ai un petit doute juste.
Voilà, casseur d'ambiance.
Moi, je suis arrivé au journal en 2013. J'ai jamais eu un boulot aussi longtemps, d'ailleurs. En 2013, on était imprimé à Orléans, voilà, Rotocentre. Bon, bah, Rotocentre, hop, ils ferment. Donc, ils nous disent, ah, vous allez voir, Roto-Garonne, c'est vachement bien, on vous met là-bas. Donc, Roto-Garonne, ben, ils ont fermé. C'est des rotatives. On parle de rotatives, c'est des machines qui font deux étages, 45 mètres de long. Et puis ça, c'est que pour l'impression, parce qu'après le pliage, c'est une autre machine. Enfin, c'est des trucs de ouf. Ça travaille la nuit tout le temps parce qu'ils tirent les quotidiens, etc. Donc, ils bossent de nuit. Donc, Roto-Garonne a fermé. Du coup, là, on est allé là où on est aujourd'hui. C'est à Vitrolles, à côté de Marseille. Et en tout cas, le premier Roto-Centre, quand je suis arrivé en 2013, j'étais au tirage. Et il y a un des gars sur machine. Il me dit, de toute façon, le jour où il n'y a plus de publicité dans les boîtes aux lettres, vraiment plus du tout de trucs de Lidl, de Carrefour et tout, il n'y aura plus de presse papier. En tout cas, notre format, pas magazine, mais le format là, parce qu'en fait, c'est la pub qui fait tourner les rotatives, beaucoup. Et du coup, voilà, on dit souvent, ouais, mais papier, ça va revenir, etc. Je dis, j'espère que ça reviendra avant qu'on ait plié boutique, parce que c'est bien joli, mais sinon, ça ne marchera pas. Enfin, je veux dire, si d'un coup, il n'y a plus de... Bon, on n'en est pas là, hein. Mais s'il y a moins de rotatives, voire plus de rotatives, on ne pourra pas reconstruire des rotatives, quoi. Donc, voilà. Et le papier, oui, voilà, moi j'adore ça, j'adore les livres. On voit que les livres, il n'y a pas eu de... Enfin, il y a des chutes, bien sûr, de ventes. Il y a des gens qui lisent moins, les jeunes surtout, etc. Mais quand même, le livre, ça cartonne.
Pas forcément les jeunes, hein.
Ouais, enfin, il y a des chiffres quand même qui disent qu'il y a une tendance à la baisse, mais pas que les jeunes, hein. Mais voilà, enfin, en tout cas, le livre, ça fonctionne. Il y a de plus en plus de beaux objets, de belles petites maisons d'édition. Malheureusement, il y a les gros qui plombent un peu le truc et qui envoient des milliards de bouquins de merde, bon, ouais, je l'ai dit, pour inonder le marché. Et du coup, les libraires, ils pètent les plombs, hein. J'en connais plusieurs, moi, c'est chaud. Et donc, nous, c'est un peu pareil. Et c'est énervant quand, comme tu disais tout à l'heure, on va dans un kiosque. Moi, c'était Aix-en-Provence, Marseille. J'essaye de faire mon petit tour de temps en temps. Et l'âge de fer, il est derrière le comptoir, derrière des journaux, quoi. Et il faut le demander. Mais si on ne le connaît pas, on ne peut pas. Enfin, il y a un truc un peu débile. Et dans les gares, souvent, on en parlait, c'était hier, là, Gare Saint-Charles, Marseille. Bah, en fait, il y a l'eau, les chewing-gums, les KitKat, quoi. Et nos journaux, nous quatre, là, en tout cas, les quatre qu'on est, plus la décroissance, plus CQFD. Ah, il y a CQFD, on a oublié tout à l'heure. Super journal, CQFD. C'est derrière l'eau, quoi. Et il faut se tordre le cou comme ça pour aller essayer de choper un truc. Donc moi, j'aime bien déplacer les meubles, remettre le truc devant, on se fait engueuler. Et puis dès qu'on a tourné le dos, ils remettent le truc, mais c'est fou, quoi. On est derrière les bouteilles d'Evian, quoi. C'est énervant.
Mais d'ailleurs, un truc que vous pouvez faire qui est tout simple, hein, quand vous attendez un train dans une gare, vous rentrez dans un kiosque et vous bougez les journaux indépendants, ça prend 2 minutes et souvent ils vont les remettre en place, mais parfois ça reste 1 heure, 2 heures, et c'est pas mal.
Un acte de résistance tout à fait abordable. Hein.
C'était les Zones de la presse avec une table ronde enregistrée au Forum des médias indépendants les 11 et 12 avril dernier à Rennes. À la semaine prochaine, d'ici là. On va s'interroger ton stylo.